Je ne trouve pas scolaire dans vos contacts. Voulez-vous appeler?
Est-ce que ça marche?
Le concept philosophique de forme résiste aux définitions simples. Il semble qu'elle soit toujours déployée en réaction aux problèmes de son temps. À la frontière entre la philosophie et les sciences, différentes traditions formalistes poussent les limites de ce que les humains humaines peuvent se représenter et définir. Aujourd'hui, Juan Luis Gastaldi nous parle de la forme, une notion philosophique qui cherche à saisir la différence entre l'immuable et le changement. Bienvenue à
Scolaire. Théorie dysfonctionnelle.
Une balade diffusion qui nous explique
que la théorie ne sert à
rien, mais qu'elle a le mérite
de nous faire perdre beaucoup de temps.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Scolaire. Aujourd'hui, nous recevons Juan Luis Gastaldi, mais nous le connaissons sous le nom de Gianni. Gianni, veux-tu te présenter?
Oui, merci Yann. Alors, je suis philosophe. J'ai étudié la philosophie après avoir étudié sciences politiques. Je suis né en Argentine. Je suis arrivé en France pour étudier de la philosophie. Puis, je me suis spécialisé dans la philosophie des sciences formelles, notamment de mathématiques et de la logique. Et ça, entre-temps, j'ai enseigné dans l'école des Beaux-Arts de Montpellier, mais toujours intéressé par des questions de philosophie et des mathématiques. Ça a évolué vers l'informatique aussi, donc en incluant dans les sciences formelles l'informatique, et au point où je me suis laissé happer par ces sciences. Et en ce moment, je fais un 12e doctorat en computer science, notamment à l'ETH, en Polytechnique de Zurich.
Et aujourd'hui, tu nous apportes le concept de formalisme et de forme. Peux-tu définir qu'est-ce que le formalisme?
Je pense que la réponse, si on peut définir ce que c'est une forme ou qu'est-ce que c'est le formalisme, je pense que la réponse est non, mais pas par une mauvaise volonté. Mais c'est un peu ce qui arrive avec tous les concepts qui sont un peu fondationnels ou fondamentaux en philosophie. C'est qu'ils ne peuvent pas se régler par des définitions. Je pense que j'ai un peu la sensation que la philosophie n'est pas réglable par définition. Par des définitions. Dès que la question devient, qu'une question devient un problème définitionnel, en fait, elle cesse d'être philosophique. Et là, pour des questions assez profondes, typiquement pour l'action de la forme, on va le voir pourquoi, mais c'est pas pour autant qu'on peut rien faire. Je pense que la manière dont la philosophie détermine des choses, même si elle n'est pas définitionnelle, il y a des méthodes. Et là, je pourrais en imaginer deux. Une, c'est de déterminer des notions comme celle des formes, par des problèmes, de les concevoir comme des réponses possibles, jamais complètes ou définitives, mais en tout cas possibles pour des problèmes. Et donc ça, c'est une première manière de déterminer une notion, et l'autre, par une histoire, l'histoire du contenu ou du sens de la notion dans ce cas-là, de la notion de forme. Et donc, il me semble que lorsque on regarde un peu l'histoire de la philosophie et la pratique philosophie, il y a un problème récurrent pour lequel la forme a été une solution possible, qui est celui de l'identité dans le changement. Alors qu'en général, on pense à la forme comme ce qui est statique. En fait, la forme a été la manière de pouvoir penser que non seulement que lorsque les choses changent, il y a tout de même quelque chose qui reste ou qui demeure stable, mais aussi que là où il y a des choses qui sont stables, il y a quelque chose qui change. C'est les problèmes justement de l'identité dans le changement. Et en effet, c'est ces problèmes-là auxquels Aristote voulait répondre lorsqu'il introduit la distinction entre forme et matière. De pouvoir rendre compte que la physique s'occupe des phénomènes qui changent, du changement, du mouvement, et il faut pouvoir en rendre compte. Et la possibilité de rendre compte de ces changements vient par une distinction entre forme et matière. Depuis, en fait, la notion de forme a pris plusieurs formes, justement, d'où le fait que définir, c'est compliqué. Mais on le trouve toujours dans des couplages, dans des oppositions. Typiquement, dans le cas d'Aristote, c'est la forme contre la matière. On trouve aussi la forme contre le contenu, la forme, la substance, le formel et l'empirique, le formel et le conceptuel. En fait, on voit que la notion de forme en philosophie se trouve toujours en relation avec quelque chose d'autre, ce qui montre que ce qui la détermine, c'est toujours une distribution stratégique par rapport à un problème à aborder. On pourrait aller un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est qu'une forme dans le cadre du problème de l'identité dans le changement ? Ce qui est important, c'est précisément que ce qui change pour Aristote, c'est précisément la forme et pas la matière. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la forme qui reste identique et c'est la matière qui change. Mais quand Aristote pense les changements, quand il pense à Socrate et Socrate qui a pris des kilos parce qu'il a un peu trop fait la fête, hein, il le dit un peu comme ça, c'est toujours Socrate. Mais donc, ce que Socrate a fait, c'est prendre une forme différente. Il y a un attribut différent qui vient à s'ajouter à cette substance concrète, ce particulier concret qui est Socrate. Et donc tous les changements accidentels, c'est des changements de forme avec une matière qui reste la même. Le problème, c'est par contre les changements substantiels. Typiquement, le moment où Socrate est né ou lorsque Socrate meurt. Et là, il y a une substance qui disparaît. Donc, c'est un changement substantiel, pas seulement accidentel. Et là, on rentre dans des problèmes. On rencontre des problèmes. Il va falloir déterminer qu'est-ce qui change là-dedans. Et là, les choses deviennent compliquées. C'est cette affaire qu'on retrouve dans la métaphysique d'Aristote. Mais pour la faire vite, d'une certaine manière, Aristote se rend compte que la matière n'est pas suffisante pour rendre compte de la substance. Même si c'est ce qui reste lorsqu'il y a d'autres types de changements accidentels, de la substance, en fait, on va chercher une sorte de substance fondamentale, mais on se retrouve à une substance qui n'a plus de qualité. Et une substance qui n'a plus de qualité, on ne peut rien en dire. Et c'est là où la substance devient la forme, chez Aristote, qui finit par déterminer ou par définir justement la substance comme la définition. D'où le fait que ce soit difficile aujourd'hui de donner une définition de la forme, parce que la forme est la définition d'une chose. Donc finalement, la forme d'une chose revient, en tout cas pour Aristote, à être sa définition ou son essence. La matière peut être la même, mais si je prends des briques, ce n'est pas forcément une maison. Une maison est née, elle vient à exister, elle vient dans l'existence, alors qu'elle prend une forme des maisons. Ce qui définit l'essence du maison, c'est cette forme-là, parce que la matière, elle est informe. Et donc vous voyez que c'est plutôt la question du changement, c'est le... Il ne s'agit pas de donner une définition de la notion de forme, mais il s'agit de comprendre quel est le problème qui est derrière, pour qui réclame l'existence d'une notion de forme, et pas d'une notion de forme, mais une distinction entre forme et quelque chose d'autre. Alors tout ça, c'est très classique, mais moi, ce qui m'intéresse, les formes, si j'ose dire, contemporaines du problème de la forme. Dans le cas de la philosophie disons moderne, c'est Kant qui a donné la nouvelle forme à la notion de forme, ou au problème de la forme. Puisque pour Aristote, étant donné que la forme, c'est la définition, il prend d'habitude une définition, ça va être une proposition.
Oui.
Une proposition, ça va être un rapport entre des concepts. Et c'est là où, avec une philosophie kantienne, on va retrouver que la forme est précisément ce qui n'est pas les concepts. Et ça, c'est nouveau, radicalement nouveau dans la philosophie. C'est ce qui échappe aux concepts, sans être de la matière pour autant. Et là, on voit qu'il y a une opposition différente qui se met en place, entre forme et concept, qui n'étaient pas forcément celles que la philosophie depuis les Grecs, en tout cas depuis Aristote, avait mis en place. Et là, les choses se compliquent et c'est là où ça devient intéressant.
J'aimerais complexifier encore la chose et poser la question de structure. Comment est-ce que la forme et la structure interagissent ?
Alors, c'est très juste et ça me ramène à la douzième manière dont on peut déterminer des notions aussi fondamentales comme celle des formes, qui est celle de faire de l'histoire. Sur cette question du rapport entre structure et forme, moi j'ai été très marqué par un entretien que Michel Foucault, philosophe français, donne un peu vers la fin de sa vie sur le post-structuralisme. Et on lui demande quelle est l'origine du post-structuralisme. Il répond, il dit, ce qui m'apparaîtrait intéressant, et si j'en ai le loisir, j'aimerais le faire, ce serait d'étudier ce qu'a été la pensée formelle, ce qu'ont été les différents types de formalismes qui ont traversé la culture occidentale pendant tout le XXe siècle. Quand on songe à l'extraordinaire destin du formalisme en peinture, des recherches formelles en musique, quand on pense à l'importance qu'a eu le formalisme dans l'analyse du folklore, des légendes, en architecture, à son application, à certaines de ses formes dans la pensée théorique, il est certain que le formalisme en général a été vraisemblablement l'un des courants à la fois les plus forts et les plus variés qu'ait connu l'Europe au XXe siècle. Et à propos de ce formalisme, je crois aussi qu'il faut remarquer qu'il a été très souvent associé à des situations et même à des mouvements politiques à la fois précis et chaque fois intéressants. Les rapports entre le formalisme russe et la révolution russe seraient certainement à réexaminer de très près. Les rôles qu'ont eu la pensée et l'art formel au début du XXe siècle, leurs valeurs idéologiques, leurs liens avec les différents mouvements politiques, tout cela serait analysé. Et puis il dit, bah, il faut penser le structuralisme dans cette histoire du formalisme, comme un avatar parmi toutes les expressions que la pensée formelle a prises au XXe siècle. Et donc, je pense que ça, c'est assez juste, que le structuralisme doit être conçu dans un cadre plus général de ce que ça a été la pensée formelle dans l'époque contemporaine. Et c'est pour ça que je me suis lancé, d'ailleurs c'était ça un peu le travail de ma thèse de doctorat en philosophie, dans une sorte de généalogie de la pensée formelle contemporaine, qui inscrit ses racines dans le 19e siècle et qui se retrouve un peu établie au début du 20e siècle. Et c'est quelque chose que j'ai étudié sous la forme de l'émergence des sciences formelles. Typiquement, quand on pense à la façon dont on caractérisait ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences formelles, typiquement les mathématiques et la logique, avant le 19e siècle, ce n'est pas des sciences qu'on caractérise des formelles. On les caractérise des abstraites, métaphysiques et idéales, typiquement. Mais on ne trouve pas la caractérisation des formelles. Et cette caractérisation, c'est quelque chose qui va se tramer au 19e siècle, les longs du 19e siècle, d'après une articulation assez neuve et assez originale et inattendue entre la logique et les mathématiques. Avant le 19e siècle, la logique appartenait au domaine des sciences humaines. C'était de l'ordre de la rhétorique, de l'argumentation, du discours, du langage, de l'homme. Et alors, aujourd'hui, ça serait, c'est pas impossible, mais en tout cas, c'est frappant pour nous de penser que les mathématiques et la logique n'appartiennent pas au même régime des savoirs. Et donc, cette histoire du formalisme, cette généalogie de la pensée formelle, en tout cas de mon point de vue, devait passer par une explication, une analyse, une explication de la manière dont logique et mathématiques se sont articulées ensemble. Et en gros, c'est un peu ça ce que j'ai essayé de faire. C'est un processus qui est assez complexe, d'abord des mathématisations de la logique, et puis de logicisation des mathématiques une fois que la logique a été mathématisée. Et tout cela finit par être établi au début du XXe siècle en déterminant une sorte de région du savoir nouvelle qui est celle des sciences formelles dans lesquelles la science informatique typiquement va venir compliquer les choses. Et là, donc, ça serait une autre manière de penser qu'est-ce que c'est que le formalisme. Le formalisme, c'est quelque chose qui a à voir avec ce type d'objet scientifique qui est étudiée par un régime de savoir spécifique, qui est différente de, je dirais, des sciences de la nature, parce que les formes ne sont pas naturelles, même s'il peut y avoir des formes dans la nature, mais la forme comme objet d'étude elle-même, elle ne s'y réduit pas, mais aussi différente des sciences sociales, ce qui détermine un régime, ou en tout cas un paysage des savoirs au XXe siècle dans lequel on a, de mon point de vue, c'est ces trois registres, les objets naturels, les objets sociaux et les objets formels.
J'assume qu'il serait difficile de faire un exemple dans un contexte aussi riche et varié que le formalisme. Peux-tu donc nous exemplifier un peu de quoi on parle ici?
Alors, en effet, c'est compliqué de donner des exemples des choses qui sont aussi abstraites, justement formelles, mais je pense qu'on peut donner une idée de quels sont les problèmes. Qu'est-ce qui justifie l'existence ou la caractérisation de quelque chose comme une forme qui ne serait ni un objet social, c'est-à-dire un produit manières arbitraires de se relationner, de se rapporter les uns aux autres, mais non plus quelque chose qu'on découvre dans la nature comme on peut découvrir une pierre ou un organisme ou une loi de la matière. D'abord, il faut dire que ces objets formels ou ces formes qui sont des objets d'étude, on peut les concevoir comme construits Évidemment, on peut avoir une position plus platonicienne, donc, dans laquelle les formes existent depuis toujours dans un monde idéal. Mais je pense que la thèse profonde du formalisme contemporain, moderne et contemporain, c'est justement que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce que ces formes n'existent pas dans un monde idéal, ce n'est pas parce que ce n'est pas idéal ou idéal que ce n'est pas formel. Et donc, je donne un exemple, j'essaie d'habitude de donner pour comprendre quelle pourrait être la nature d'un objet formel, c'est... tu sais, peut-être, il y avait ces problèmes au XVIIIe siècle qui s'appelaient les problèmes des sept ponts de Königsberg.
Oui.
C'était en Prussie, mais ça appartenait à la Russie, à l'Empire russe. Enfin, ça dépend des époques. Alors, il se trouve que Euler était à Königsberg, les mathématiciens suisses, par ailleurs. Et il s'est occupé de cette question des sept ponts de Königsberg. Et d'une certaine manière, ces problèmes ont été un peu... associé à l'émergence de la topologie. Alors, le problème est relativement simple. La ville de Königsberg avait sept ponts, avait une configuration avec une île, un fleuve, une île au milieu. Il y avait sept ponts distribués de manière spécifique dans la ville. Et les gens se posaient la question si on pouvait les traverser tous, sans passer deux fois par le même pont et arriver au même point. Et il se trouve que les gens n'arrivaient pas. Donc, ils tentaient. Et donc, il y avait cette sorte de questions ouvertes. Et les mathématiciens sont penchés là-dessus. Ils se trouvent. On ne donne pas la solution pour l'instant, mais imaginez donc qu'un mathématicien, Euler, il est en train de travailler sur ces sujets-là, et quelqu'un vient et dit « Non, t'inquiète, on a résolu. On a construit un pont de plus, et maintenant, c'est possible. » Alors, on voit très bien qu'on rate quelque chose. On voit très bien que les problèmes, ce n'est pas de traverser les ponts de Königsberg. C'est quelque chose d'autre. Mais c'est quoi? Parce que tout ce qui existe, c'est Königsberg. Est-ce vrai que tout ce qui existe, c'est Königsberg? Bon, en fait, il y a une dimension purement formelle à ces problèmes qui ne se réduit pas à l'existence empirique de ces ponts et de cette ville-là. Et c'est ça qu'on essaie de caractériser. Vous voyez, c'est à nouveau par des problèmes qu'on caractérise quelque chose. Il ne s'agit pas de donner une définition de ce qui est formel. Il s'agit de comprendre quels sont les problèmes pour lesquels le formel va être une solution. C'est-à-dire, on veut donner une existence à cette chose qui n'est pas... qui ne disparaît pas lorsque les conditions empiriques ou matérielles disparaissent. Le problème reste de savoir qu'est-ce qui est que ces trucs, quel est vraiment le problème qui est matérialisé sur la forme des ponts, mais qui ne s'y réduit pas. Comment je peux le faire exister en tant que tel? Et donc là, on a un exemple, typiquement, de comment le formel... ou la forme, hein, si tu veux, ne se réduit pas à ces conditions d'existence. Et en même temps, il est un peu inscrit dans une matérialité. Un autre exemple, ça serait, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est celui de Wittgenstein. Après, on le connaît, on l'a entendu par d'autres moyens, mais Wittgenstein l'utilise typiquement dans ses leçons sur la philosophie, sur les fondements des mathématiques. On voit très bien qu'il y a un interlocuteur, typiquement ça serait Russell, mais on ne le nomme pas comme ça, mais ça, c'est, on l'identifie bien, on le reconnaît. Et donc Russell qui veut prouver que 1 plus 1 égale à 2, il n'arrive pas quoi, pendant des pages et des pages, parce qu'il y a Wittgenstein de l'autre côté qui résiste et qui donne des contre-exemples. Il y a un moment où la personne qui veut prouver que 2 plus 2 égale à 4 ou que 1 plus 1 égale à 2, bah, se met à manipuler des pierres. Il m'a dit, vous voyez, je prends une pierre, je prends une autre pierre, et là j'ai une pierre, et une autre pierre, et là j'ai deux pierres. Et Wittgenstein dit, par le même argument, je prends une goutte d'eau, et puis je prends une autre goutte d'eau, je les mets ensemble, et j'ai une goutte d'eau. Qu'est-ce que vous direz à ça, dit Wittgenstein? Et il répond lui-même en disant, en fait, ce qu'on typiquement on dirait, c'est que l'eau n'est pas bonne pour faire de l'arithmétique. Et là, tout de suite, quelque chose qui est... Encore une fois, c'est un exemple, mais c'est quand même très profond parce que ça veut dire que l'arithmétique ne dépend pas des conditions matérielles. Au contraire, on sélectionne la matière qui correspond, qui est capable d'investir une forme. Et la forme, donc, la précède. Alors, on aura besoin des matérialités. Ça ne veut pas dire que la forme est complètement indépendante de la matérialité. Il faut une matérialité, Mais la, mais la forme ne s'y réduit pas parce que, justement, elle est un critère pour la sélection de quelle matérialité est la bonne. Ça ne vient pas de la matière, mais ça vient de « je sais déjà ce que je veux, je sais déjà ce que c'est que l'arithmétique, et donc je peux sélectionner la bonne matière ». Et là, on voit encore une fois que, quel type de problème la notion de forme essaye de caractériser. Donc là, un exemple très clair des formes qu'on utilise tout le temps sans forcément le savoir. Il y aurait encore d'autres exemples du côté du langage. Et quand on y pense, hein, les langages, c'est la matière. On pourrait imaginer que c'est des matérialités pures. Je suis en train de produire des sons. Et ces sons, à chaque fois, sont différents. Encore une fois, cette question de la différence et de l'identité. Et pourtant, quand je dis un mot et puis je dis le même mot plus tard, comment je sais que c'est le même mot? C'est deux sons différents. Je peux le dire avec une différente voix. Ça peut être une autre personne qui le dit avec une tonalité de voix différente. Et pourtant, on l'entend. On le reconnaît comme étant le même mot. Ou d'une autre façon, là j'ai un accent en français qui vient de probablement de mon espagnol, qui lui-même est un peu italianisé parce que les Argentins, l'accent argentin est très italien. Et puis, mais aussi par le fait que je parle en ce moment beaucoup anglais parce que c'est ça qu'on fait à l'université. Donc du coup, mon accent et moi, les sons que je produis sont très très différents d'une certaine norme. C'est la même chose pour toi en habitant au Québec, notamment au Montréal, et, qui est un accent différent du parisien et qui est lui-même un accent différent du sud de la France, etc. etc. Et pourtant, tous ces sons-là, tous différents, ils sont reconnus comme produisant le même langage ou quelque chose de l'ordre du même. Ce n'est pas forcément le même langage, quoique c'est différents accents dans le même langage, la langue française. Et donc, précisément, si on veut thématiser qu'est-ce qui est le même dans toute cette variation-là, bah, la notion de forme, justement, c'est celle à laquelle Saussure appelle pour caractériser cette chose qui est la même dans une matérialité qui varie, bah, elle vient justement qualifier ou caractériser ce qui est le même, et justement, elle le caractérise sous la forme d'une structure. La structure, c'est cette dimension formelle du langage qui permet, malgré les variations matérielles, d'identifier des unités comme étant des unités ou des identités.
J'aimerais revenir à un exemple qui est plus proche de moi, celui des sciences naturelles. Mm-hmm. Parce que dans mon apprentissage de la physique et parce que les gens autour de moi semblaient pousser un agenda qui était platonique, mm-hmm. Où justement les mathématiques sont découvertes, où justement... il y a quelque chose de je n'ai pas envie de dire pur, mais quelque chose de très réel au formalisme, très réel au formalisme mathématique, mm-hmm. précisément. Et on est bien loin du point de vue qui était poussé par les presque philosophes physiciens, mm-hmm. du début du dernier siècle. Donc, selon toi, ce n'est pas le cas. Selon les formalistes contemporain, ce n'est pas le cas. Et il y a donc un rejet du platonicisme. Est-ce que tu pourrais en parler dans le cadre des sciences naturelles?
Alors, c'est très juste ce qui fait la difficulté d'une doctrine contemporaine de la forme, qu'on pourrait justement appeler formalisme. C'est vrai que la forme a été précisément comme a été une des solutions à ce qui est identique dans ce qui change. Il y a une tentation qui a été rarement été évitée, mais on en trouve. Des auteurs qui l'évitent, mais de manière générale, elle n'est pas évitée de faire de ces identités des identités fixes, des identités qui existent malgré tout, qui existent indépendamment des changements matériels. Et il y en a eu, comme je disais, peu qui n'y sont pas succombés à cette tentation de rendre la forme une idée platonicienne. Moi, je dirais que justement, Aristote en est justement quelqu'un qui n'est pas succombé. Alors que Platon, d'une certaine manière, justement, il était platonicien. Ou en tout cas, ça se défend. Et donc, le risque, justement, puisque la forme est une solution au problème de l'identité dans le changement, c'est de penser que l'identité est première et que elle est indépendante et qu'elle est fixe, surtout. Mais pour la même raison, on peut faire l'autre lecture. Puisque c'est l'identité du changement, elle est conditionnée par le changement. C'est dans le changement qu'on va identifier ce qui ne change pas. Et donc, je ne peux pas concevoir cette identité sans le changement. Alors, il se trouve que dans les sciences naturelles, plus largement, dans la physique clairement, qui montre un peu, qui a déterminé un peu la matrice de l'épistémologie des sciences formelles, mais dans les sciences naturelles plus largement, et puis ça cherche à s'étendre aux autres sciences, il y a une idéologie du caractère fixe et universel et éternel des formes, que lorsque on fait une histoire des pratiques scientifiques, elle ne se vérifie pas. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la façon dont les gens... Déjà, on voit très bien que les sciences n'ont pas arrêté de changer la forme qu'ils voient dans la matière, tout en, à chaque fois, se réclamant d'une forme qui est fixe. Et donc, évidemment, ça, on le fait avec un embarras. On dit, ah non, mais les autres, ils s'est trompés. Ah, mais nous, on ne s'est pas trompés. Et puis, ceux qui viennent après, ils disent, mais les autres s'est trompés, mais nous, on ne s'est trompés. Et nous, maintenant, aujourd'hui, il y a notre pression, en 2024, presque 25, on dit, non, les autres s'est trompés, mais nous, on ne se trompait pas. Donc, il faut avoir un peu de vision historique pour savoir que les prochains qui vont venir vont dire, en 2024, on s'est trompés, mais nous, on ne s'est trompés pas, etc. etc. Bon, il faudrait peut-être juste arrêter de dénoncer comment les autres se trompent et penser comment on fait la même chose et que peut-être faire la même chose, ce n'est pas forcément se tromper. Mais tout simplement, reconnaître que l'identification des formes est conditionnée par les changements et que donc on a des systèmes de variations et qu'à différents moments, on a des systèmes de variations différents. Dans la pratique scientifique, c'est ça qu'on fait. On essaye de voir de comment les choses changent. On essaye d'induire des formes qui pourrait expliquer ces changements dans la continuité, sans pour autant aller jusqu'à penser que ces formes sont fixes, éternelles et idéales, et ce qui n'est pas réclamé par la pratique elle-même. Et en général, il se trouve que ces opérations d'absolutisation de la forme viennent plus des philosophes que des scientifiques. Les philosophes qui, en général, prennent en otage, hijack, je disais, les pratiques scientifiques pour des questions idéologiques. Ils en font trop, quoi. On pourrait dire ça, en faisant trop. Et donc, c'est là où, je pense, en tout cas, je m'inscris dans une vision philosophique qui cherche à être à même les pratiques de tout type, notamment dans ce cas-là, des pratiques scientifiques. Et alors, le risque de faire ça, c'est qu'on perde la forme. Et ça, on le voit très bien. C'est-à-dire que les gens qui veulent montrer qu'en fait, il y a beaucoup plus de changements qu'on ne le croit, que les choses qu'on nous présente comme étant idéales et éternelles, en fait, elles ne le sont pas. Ça, le risque, c'est de dire, vous voyez, alors la forme n'existe pas. Ou alors, il faut qu'on se détache de ces formalismes, on arrive à une sorte de matérialité pure. Et je pense qu'il y a une autre vision, une autre histoire du formalisme est possible. Donc, deux fois, quand je le dis de manière un peu en rigolant, je l'appelle l'alter-formalisme. Un autre formalisme est possible, en prenant évidemment la référence de l'alter-mondialisme. Et il faudrait pouvoir construire quelque chose comme un alter-formalisme dans lequel la forme n'est pas pris en otage par des visions idéalistes dans la philosophie, mais au contraire, inférée, déduite et construite constamment et reconstruite à partir du changement des pratiques et des matérialités. Et en fait, je pense, et ça je l'ai appris de mon professeur d'abord et puis grand ami Patrice Maniglier, que c'était tout de même les projets du structuralisme. Mais c'était aussi celui du formalisme en art. Et c'était aussi de plein d'autres pratiques formalistes qui ne sont malheureusement pas celles qui se sont appropriées en philosophie de la notion de forme au XXe siècle. Donc, c'est peut-être ce travail de généalogie de la pensée qu'il faut faire pour faire apparaître d'autres pratiques et d'autres conceptions du formalisme qui ne sont pas celles qui ont déterminé les mainstreams de la pensée formaliste au XXe siècle, dont on voit les échecs.
Il me faut maintenant poser la question qui inscrit tout ça dans le cadre de notre balado-diffusion, dans le cadre de la scolaire. Comment la notion de forme est-elle dysfonctionnelle ou encore comment nous fait-elle dysfonctionner?
La forme est toujours conçue sous le nom de la fonctionnalité. Et encore une fois, dès qu'on va avoir les pratiques formelles, bien souvent, c'est des pratiques du dysfonctionnement, c'est des pratiques à contre-courant, des pratiques ordinaires. Et en fait, j'ai trouvé plein des moments ou d'exemples ou des cas de ces usages essentiellement formels qui sont en disruption avec un bon fonctionnement, qui font justement dysfonctionner le bon fonctionnement. Alors le premier, les plus surprenants, en même temps les plus beaux, qui me vient en tête, c'est celui des formalistes russes, justement ces groupes d'artistes, en particulier des poètes, mais de manière plus générale des littéraires, des peintres, des musiciens, qu'on a l'habitude d'identifier sous la forme sous le nom des formalistes russes, qui se réunissent autour d'un certain nombre des principes qu'ils opposent au symbolisme propre à la fin du 19e, justement à un art des idées. Et ils vont opposer à l'idée artistique, à la forme artistique. Et une manière de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, c'est celle que Shklovsky développe dans un article célèbre qui s'appelle « L'art comme procédé ». Il y a la notion de forme, et là, derrière, c'est une notion de procédé, de procédé formel, c'est ça qu'il a en tête, et qui essaie de caractériser pour lui, et donc pour cette génération-là, quelle est la nature, l'objectif des procédures formelles en art. Pourquoi l'art doit embrasser, ou pourquoi l'art doit s'associer à des procédures formelles. Et là, il mobilise un concept que en russe, s'appelle « ostraneni », et on peut identifier la racine de « strangement », c'est ça que ça veut dire, des « étrangérisations ». C'est difficile de traduire, des fois les gens le traduisent par « singularisation », mais en gros, des « rendre étrangers ». C'est ça que l'art doit faire, c'est ça que les procédures formelles sont capables d'effectuer pour l'art et dans l'art, typiquement de rendre étrangers des choses de telle sorte qu'on puisse les voir. Parce que on a arrêté de voir les choses. On a arrêté de les voir parce qu'on les a automatisées. Et quand on automatise les choses, en fait, on ne les voit plus. Donc la forme est devenue trop évidente, triviale, en fait. On a trivialisé la forme des objets. Et donc il y a une procédure formelle à avoir pour rendre les objets étrangers à nouveau, ou les choses plus généralement, mais on peut parler d'objets, et de telle sorte qu'on les voit à nouveau. Vous voyez, à ces points-là, dans quelle mesure la forme travaille pour la matière. On va déformer de telle sorte qu'on puisse voir les choses, les percevoir pour la première fois. Et là, j'ai une citation de Shklovsky où il définit ça. Et donc, dans cet article, donc Shklovsky dit « Et voilà que pour rendre la sensation de la vie, pour sentir les objets, on ne dirait pas un formaliste, là, on dirait un impressionniste, mais en fait, non, il est en train de faire l'apologie de la forme. Et voilà que pour rendre la sensation de la vie, pour sentir les objets, pour éprouver que la pierre est de pierre, il existe ce qu'on appelle l'art. Le but de l'art, c'est de donner une sensation de l'objet comme vision et non pas comme reconnaissance. Le procédé de l'art et le procédé des singularisations, et ça, c'est les mots dont je parlais tout à l'heure, donc des étrangérisations des objets, et les procédés qui consistent à obscurcir la forme, à augmenter la difficulté et la durée de la perception. L'acte des perceptions en art est une fin en soi et doit être prolongé. Là est un moyen d'éprouver le devenir de l'objet, ce qui est déjà devenu n'importe pas pour l'art. Donc là, on voit très bien dans quelle mesure la forme fait dysfonctionner. Parce que la fonctionnalité, le fonctionnement, rend la forme triviale et nous fait ne pas voir ce qu'on a en face. Et j'aurais envie de penser que c'est la même chose pour les mathématiques lorsqu'on formalise, mais c'est la même chose pour les langages lorsqu'on décrit la structure. On fait apparaître une forme qui est responsable de l'expérience des objets ou de la perception des objets, l'expérience plus largement, mais qui est devenue justement triviale à force de la pratiquer et qui donc il y a un travail formel à faire pour identifier ce qui n'est pas trivial là-dedans, de le voir dans sa singularité, de s'arrêter. Tu sais qu'en formalisme en mathématiques, en général, c'est problématique parce que les gens savent ce qu'ils font de manière générale. Et donc, exiger dans la pratique mathématique des formalisés, ça demande de s'arrêter, de prendre des temps, tout devient hyper compliqué, alors que c'est des choses qu'on sait faire déjà. Et pourtant, au moment des formalisés, on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on croyait savoir qu'on ne sait pas, qu'il y a des choses qu'on a assumées qu'il ne fallait pas assumer. Et donc, ça fait dysfonctionner aussi la pratique mathématique. Et ça, c'est arrivé à l'extrême avec ce qu'on appelle les preuves formelles en maths, c'est-à-dire des preuves par ordinateur, qui nous font rendre compte de toutes les choses qu'on est en train d'assumer, parce que lorsqu'on fait une preuve et on doit la faire exécuter par ordinateur, vous savez, il y a Gérard Berry qui disait « rien de plus bête qu'un ordinateur ». Il faut tout écrire, des choses que nous, on peut performer sans problème, l'ordinateur ne peut pas. Donc, du coup, la formalisation est très encombrante. Elle arrête des choses dont on devrait passer vite. Mais en faisant ça, il y a énormément de savoir qui se met en surface, qui a été pris pour acquis et qui peut-être ne devrait pas. Donc, je pense que ces travaux de formalisation est essentiellement lié à un certain dysfonctionnement, je dirais au dysfonctionnement de ceux qui fonctionnent trop bien et que parce qu'ils fonctionnent trop bien, il nous fait dysfonctionner nous-mêmes, parce qu'il nous fait ne pas voir, assumer des choses qu'on ne devrait pas assumer. J'ai envie de voir ça comme la même procédure, que ce soit pour l'art ou pour les mathématiques ou pour une analyse du langage, c'est la même procédure.
Mais sur ce, merci beaucoup, Jenny Gastaldi. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, merci à toi, Yann, à Marcelo et à tous ceux qui s'occupent de ces podcasts que je trouve excellents, dont j'ai entendu déjà quelques épisodes. Je vais continuer à suivre et qui me semble essentiel justement pour faire circuler les idées des sciences humaines et sociales et des visions critiques sur ces sujets.
Merci d'avoir écouté Scolé, une balade aux diffusions proposée par la chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques. Nous espérons que vous ne retrouverez pas les temps perdus, mais que vous continuerez à en perdre encore. En nous suivant sur scolé.écriturenumérique.ca, SKHOLE écriturenumérique au pluriel.ca, et en écoutant nos prochains épisodes.